tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe, pile poil 18h30, c'est plus un pont là, hein, c'est un aqueduc. Et pourtant, nous on va vivre des moments intenses. Ligue 1, Coupe d'Europe, on perd pas une seconde, surtout qu'on est en émission réduite. Il y a la Ligue 2 derrière, c'est l'équipe de Greg, saison 3, épisode 174, ça commence maintenant. Bonsoir à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On va passer ce vendredi soir ensemble, que vous soyez en vacances, déjà en week-end ou alors peut-être sur la route. Pas celui qui conduit, hein, derrière, tranquillement, la tablette, téléphone si vous êtes à côté. On va s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football, autour de la table ce soir. Camille Macali. Bonsoir Camille.
Bonsoir Greg.
Ça va, on est quasiment
raccord. Ouais, j'ai essayé de me raccorder à vous.
Voilà, on est comme ça. Bonsoir Karim Benani.
Bonsoir mon cher Greg.
On est raccord niveau Woody.
Bah oui. Bien Friday
sûr.
Wear.
Bien sûr. Regardez ça, c'est Vincent Deluc, c'est la touche de classe parce que Friday Wear. Il n'y a pas de Friday pour Vincent. Ça n'existe pas. Vincent, c'est monté. Bonsoir Vincent, ça va
Greg.
Merci d'être là. De l'autre côté, Anthony Clément. Bah Anthony, hein, voilà.
Sunday Wear, Sunday.
Il s'habille toujours comme Kurt Cobain, hein, ça n'a pas changé. Comment ça va mon petit Anthony?
Ça va très bien.
Friday Wear également, regardez, ça fait plaisir, la marinière bretonne. Bonsoir Raymond Domenech.
Bonsoir, je me suis dit, c'est l'équipe de Greg aujourd'hui, je peux m'habiller décontracté.
Voilà, on est entre nous, on est façon entre potes. Et regardez Raphaël, il est venu pareil, comme un boys band des années 90.
C'est vrai. Non, ni le talent, ni le physique. Hein.
Ça se... N'attends pas que ça parte, me dit-on dans l'oreille, bien sûr. Ouais. Regardez le sommaire de l'émission, parce que là, j'ai l'impression qu'on va... Hein. L'OM a-t-il laissé passer sa chance? Alors, on pose la question parce qu'hier, il y avait une ambiance extraordinaire au Vélodrome. Il y avait vraiment le moyen de gagner ce match. Est-ce que c'est grave, docteur? Réponse dans quelques secondes. Et puis, PSG Dortmund, bah oui, déjà J-4. Hein. Le truc, c'est que on est tout de suite en J- quelque chose dans cette confrontation. Est-ce qu'il y a des inquiétudes en défense? Forfait de Lucas Hernandez et pour l'Euro également. Et puis, Nuno Mendes, qui revient de blessure et qui a le contre-coup, qui a été en énorme difficulté avant-hier. Ligue 1, les enjeux à tous les étages. La lutte pour l'Europe, la lutte pour la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa, pour la Ligue Europa Conférence et pour le maintien et donc les barrages. Quelle est l'affiche qui a le plus d'enjeux pour vous ce week-end? Et puis on aura également le replay d'Antoine Pinault qui viendra nous voir tout à l'heure. On jouera une fois aujourd'hui parce qu'on s'arrête un petit peu plus tôt. Il y a Angers-Pau, il y a la Ligue 2 qui sera avec nous tout à l'heure. Là, dès qu'on a terminé l'émission à 19h50, direction du foot en clair, gratuit sur la chaîne L'Équipe. Et puis, il y aura évidemment le bingo. Vous connaissez le principe, hein, les phrases toutes faites, les pensifs, les généralités, les petites habitudes. Ça va sur le banc. Voici l'indispensable du soir. Et on prend la direction de Lens parce qu'il y a du foot. On aime, il y a du foot tous les jours. Et c'est ça qu'on adore. Timothée Mémon est avec nous à Lens, Lens-Lorient ce soir. On parlait d'enjeu, Timothée. Je demanderai à l'affiche des copains tout à l'heure. Là, il y a de l'enjeu parce que Lens a une place européenne à consolider et Lorient a une place en Ligue 1 à conserver.
Absolument. Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Tu as résumé les enjeux de cette rencontre avec une équipe de Lens qui voit derrière l'Olympique de Marseille, européen convaincu, être à 2 points seulement face à Lorient. Ils doivent absolument enchaîner à domicile, prendre 3 points qui leur permettraient, allez, peut-être pas de sécuriser totalement cette place européenne pour la saison prochaine, mais qui ferait du bien dans cette course à l'Europe. Alors évidemment, les Lensois, notamment du côté du président, l'ont dit, il n'y a pas d'obligation à jouer l'Europe, il n'y a pas de nécessité financière à jouer l'Europe la saison prochaine, mais les supporters ont quand même pris goût à la Ligue des Champions cette saison et le but de Francaise et de tout l'effectif, c'est de les ramener en Coupe d'Europe, même si c'est une des petites sœurs de la Ligue des Champions. Et puis Lorient est à 3 points du barragiste, Lorient est à 3 points de la première équipe non relégable, Metz et Le Havre respectivement. En cas de victoire, Lorient pourrait de nouveau peut-être croire à son maintien en Ligue 1. En cas de défaite, il ne resterait que 2 matchs, dont un affrontement face à Marseille, ce serait nécessairement très compliqué pour les Merlus.
Alors on en parle un petit peu, Timothée, vous restez avec nous. Vincent, on a failli poser la question qui joue le plus gros. Je suis incapable de répondre à cette question, possiblement Lorient.
Ah oui, mais Lens, si Lens n'était pas européen un an après avoir été le dauphin du PSG et après avoir semblé bien gérer sa double vie pendant longtemps, ça serait quand même un vrai gadin quand même. Enfin, voilà, on ne s'attendait quand même pas à ça. C'est une équipe qui avait quand même pas mal investi. Dans son recrutement, même si elle avait vendu 2 joueurs importants, Fofana, Openda, et on se rend compte que cela a duré. Quand on vend des joueurs importants et qu'on arrive en Ligue des Champions, il ne faut pas se tromper dans le remplacement. Non. Mais voilà, oui, c'est je sais pas pour quel des deux c'est le plus important, mais pour Lorient qui a le 7e budget de Ligue 1, si j'ai pas de bêtises,
là, c'est ça le drame.
Ou 8e, l'idée c'est pas d'être là. Hein.
Non, surtout qu'il y a ce partenariat avec le club anglais, il y a beaucoup d'argent du côté de Lorient.
Et de toute façon, tous les clubs français qui sont en multipropriété, ils le regrettent en ce moment. Hein.
Peut-être que Strasbourg, ça, c'est mieux que prévu, non ?
Oui, mais enfin, même vous, les supporters, vous avez vu les banderoles. Hein,
oui, il y a les banderoles. Y a pas vous avez raison. Hein. On parlera de la Ligue 1 tout à l'heure. Hein. Là, c'est juste le petit clin d'œil à Timothée et à ce match Lens-Lorient. On l'aura en fil rouge. Je vous demande quelle affiche a le plus d'enjeux, est-ce que vous excite le plus. Il y a beaucoup de très belles affiches ce week-end. On en reparlera. L'autre info indispensable, Raphaël, c'est que ça y est, l'UEFA a tranché.
Oui, c'est une info à information. L'équipe, les membres du comité exécutif de l'UEFA ont décidé d'élargir de 23 à 26 joueurs les listes pour l'Euro 2024. Donc, comme prévu, il a été dans le sens des recommandations de la commission des compétitions des équipes nationales de l'instance européenne qui avait voté donc le 22 avril dernier à une très courte majorité pour cette solution. L'information importante, c'est que tous les joueurs pourront figurer sur la feuille de match. Donc, voilà. Les 26 seront sur la feuille de match. Sachez également que Philippe Diallo, le président de la FFF, s'était prononcé pour le maintien à 23. Lui qui est président de cette commission et aussi membre du COMEX de l'UEFA. Il avait voulu suivre l'avis de Didier Deschamps, mais Didier Deschamps devrait être ravi puisque finalement, bien tous les joueurs sont sur la feuille de match.
Vous avez été très bon, Raphaël. Je viens vous voir, Raymond Domenech. Évidemment, on sait Didier Deschamps, il voulait une liste de 23. Ce sera 26, mais la priorité pour lui, c'était tout le monde sur la feuille de match. Il voulait pas de joueurs exclus. Déjà, expliquez-nous, est-ce que vous comprenez ça, le fait que c'est compliqué de mettre des garçons en tribune?
C'est la base. Quand on se retrouve et qu'on fait une liste, on fait l'équipe déjà, donc on élimine 12-13. Ou 15, et on dit à 5 ou 6, non, toi, tu n'as pas l'équipement, tu es là-haut, tu es dans la tribune, c'est le plus dur. Mmh. Alors que quand tout le monde est là, tout le monde s'habille, tout le monde s'échauffe, tout le monde peut rentrer.
Ça vous laisse plus de cordes à vos arcs, sélectionneurs ?
Ça laisse des possibilités et ça apaise. Et après, on a peut-être des choix qui peuvent être différents en fonction des moments et des situations. C'est bien. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec Didier. 23, ça suffisait.
Et là, 26, avec tout le monde sur la feuille de match, c'est une cote mal taillée. Elle est
le vrai problème, ça va être c'est l'entraînement et les bancs. Et on va les mettre où? Parce qu'il y a 26 plus une dizaine.
On avait réussi les dernières compètes, on va y arriver.
Ah, je sais pas où. L'Euro 2021 et la Coupe du Monde 2022.
Ils ont allongé les bancs.
Pas l'Euro 2021, non.
Ils ont allongé les bancs depuis la Coupe du Monde.
Du Monde, oui.
Les bancs, normalement, je sais qu'en France.
C'est des chaises maintenant.
Ils doivent être, en France, ils doivent être fixes. Oui. Les bancs. On n'a pas le droit d'avoir des chaises qui volent ou des bancs qui volent. Peut-être qu'en Allemagne, ils auront le droit, mais. Ouais, moi, je trouve que ça n'a pas un intérêt majeur à 26 parce qu'on n'a jamais qui a utilisé 20.
Il ne reste plus qu'à autoriser 8 remplacements par match.
Oui, qui a utilisé ces 23 joueurs dans une grande compétition?
Et justement, c'est ce qu'a expliqué Didier Deschamps dans un entretien accordé à nos confrères de l'AFP il y a tout juste 2 jours. Il avait anticipé cette décision de l'UEFA, le sélectionneur des Bleus. Si je prends 26 joueurs, c'est que j'estimerais que c'est utile pour l'équipe de France m'adapter. C'est mon maître mot. Les statistiques montrent qu'en moyenne, dans une grande compétition, 4 joueurs ne jouent pas du tout et 2 ou 3 jouent 10 minutes maximum. C'est un petit peu ce que nous expliquait Raymond. Il a ensuite aussi expliqué que Scaloni, le sélectionneur argentin qui avait remporté la Copa América à 26, avait trouvé l'idée très mauvaise, avant d'expliquer non plus qu'il ne serait pas borné, évidemment. Passer à 26 pour remplir des cases, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas non plus faire le malin et prendre 23 joueurs pour me retrouver en difficulté parce que je n'en aurais pas assez pris. Prendre 3 joueurs supplémentaires, cela a des incidences aussi sur la logistique, le management, à moins qu'on nous permette 8 changements, ce qu'évoquait Anthony.
Mais vous soufflez le texte de Didier Deschamps, vous êtes celui qui lui écrit en police.
J'ai rarement trouvé aussi brillant que...
tiens, Anthony, vous avez la parole. On va tous en parler, tous parler, hein, évidemment, autour de ce sujet équipe de France. Anthony, vous avez commencé à parler, je viens vous voir. Mais par exemple, quand on prend le cas de Lucas Hernandez, là, il y a quand même un titulaire de l'équipe de France qui n'est pas là. Ça permet peut-être à Saliba de conforter définitivement sa place. Ça permet peut-être de faire entrer Todibo dans le groupe. Je m'aventure, hein, je donne des noms, je n'ai pas de liste. Finalement, ce n'est pas plus mal quand on voit la difficulté de finir une saison pour certains joueurs.
C'est pas plus mal dans le sens où, oui, là maintenant il n'y aura plus aucun entraîneur, sélectionneur qui se retrouvera avec une pénurie de solutions à moins d'une hécatombe absolue. Donc c'est un confort, mais je pense que ce qu'on appelle un confort d'un côté, on le perd au quotidien avec toutes les frustrations, l'organisation des séances. Et je comprends très bien que les sélectionneurs soient pas très chauds pour ça. La bonne nouvelle, c'est pour les joueurs, parce que même les débats, même pour nous, l'intérêt de la liste perd un peu de l'intérêt, parce que là, le débat Barcola à 26, il n'existe plus vraiment, parce qu'on peut se dire qu'il va y aller. Alors on va décaler les débats, mais sur des joueurs qui vraiment, on avait l'habitude de débattre à la marge, mais là, la marge, elle devient quand même très épaisse. Donc c'est un choix assez curieux qui... qui peut satisfaire les joueurs qui vont participer à des grandes compétitions plus facilement qu'avant.
Bon, Vincent, vous suivez aussi l'équipe de France. J'aime vous voir, Karim, je ne vous ai pas oublié, mais vous savez que Vincent, il voulait réagir. Et comme Vincent, il suit l'équipe de France. Non, mais parce que je sais que ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas?
Non, parce que 20... Mais avant c'était 18, après c'était 20, après c'était 22, après c'était 23, après c'était 26, et pourquoi pas une Coupe du Monde à 48? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, c'est trop parce que la stratégie n'a plus de sens. Ça ne valorise pas la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, il n'y a plus de choix à faire. Vous prenez tout le monde, il n'y a plus de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les, on verra plus Rabiot jouer arrière gauche, c'est sûr.
C'est pas grave. On verra encore, plus non plus Camavinga.
Pourtant, dans une liste élargie. Hein.
Et ça avantage les grandes nations aussi. Enfin, ça avantage les équipes qui ont des réservoirs les plus importants.
C'est une super nouvelle pour nous, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'on a un réservoir de talent.
Je comprends le romantisme de Vincent, mais le foot a changé, la cadence des matchs.
Mais t'as 5 remplacements, donc la cadence a baissé.
Oui, mais il y a des joueurs qui se pètent. Regarde, sur les 3-4 dernières compétitions, le nombre de joueurs en équipe de France, sur la compétition, la Coupe du Monde, Nkunku et je sais
plus qui. C'était en milieu de saison.
Benzema, enfin,
il n'y a pas forcément eu plus de blessés là.
Et là, ça permet d'avoir des gâchettes supplémentaires. Effectivement.
Mais là, Barcola, si vous me parlez de Barcola, voilà, franchement, c'est une arme formidable pour Deschamps en plus.
26, je trouve, et pour reprendre un peu les mots de Raymond, vous avez des options qui s'offrent à vous qui sont considérables. Et effectivement, ça avantage les grandes nations. Et la France est une grande nation de football. Donc, à chaque poste, on pourra les doubler, parfois même voir les tripler, s'il y a une incertitude. Et moi, je trouve que c'est une bonne solution, tant le réservoir de l'équipe de France.
Mais tu ne vas pas rajouter des minutes de compétition. Donc, ces joueurs-là, ils seront là, mais ce n'est pas pour autant qu'ils
vont. Ça permet d'avoir une gâchette supplémentaire.
Mais par exemple, Barcola, il ne va pas faire la tête s'il ne rentre pas.
Est-ce qu'il y a l'obligation à 4 gardiens de but, 3 gardiens de but?
Ça reste 3 gardiens. Et juste, petite précision, par exemple, à l'Euro 2021, peut faire ce choix-là, Didier Deschamps, Luis Enrique. À l'Euro 2021, l'Espagne, il n'en prend que 24 sur les 26. Oui, parce qu'il y a le choix aussi de ne prendre que 23, 24 joueurs.
Oui, mais alors là,
il y a des sélectionneurs qui avaient fait ces choix sur d'autres compétitions.
Si vous faites 23 ou 24, Raymond, et que vous avez la possibilité de faire 26, vous avez 3 blessés, vous ne pouvez plus en rappeler, on va vous dire, bah oui, mais tu n'as pas été précautionneux.
Non, même avec 3 blessés, à 23, il en reste 20,
oui,
mais il y a 2 gardiens de but.
17, oui.
Il y a encore 8 remplaçants.
Au même poste,
mais là, même si tu en as 26, si tu as 2 blessés au même poste, même si tu en as 26, tu auras le même problème. Donc ça peut pas être une réponse.
C'est moins drôle, vous qui aimiez bien les petites surprises, les invités surprises. Là, il n'y a plus d'invités surprises. On sait à peu près qui va être pris maintenant. Ça, c'est, je rejoins Anthony.
Ah oui,
là, on sait. On serait presque capable de faire la liste, non? Allez, 25 sur 26, là.
Il y a quand même le poste derrière gauche où on sait pas.
Peut-être que Ferland Mendy va revenir.
Ah bah là, c'est à 26, il n'est pas là.
Disons que les joueurs qui ne sont pas là en juin, ça veut vraiment dire quelque chose.
Il peut enlever Clairefontaine.
Peut-être à la prochaine.
On m'avait dit que j'avais une piécette sur Benzema, on m'avait dit que tu as eu ta piécette.
Ah non, mais là, non. Non, ça n'arrivera jamais.
C'est pas politique, vous voulez dire?
Ah non, ça n'arrivera jamais.
Bien sûr. Je sais pas, je tente des choses. Non. Bon, on reviendra sur tout ça, ça nous fera des débats enflammés, évidemment. On va aller du côté d'Angers. Jérémy Jeannin-Gros est notre envoyé spécial, puisque dès la fin de l'émission, Angers-Pau, c'est de la Ligue 2, vous le savez. Un match par semaine sur la chaîne Équipe. Bonsoir, Jérémy. Un match très important pour Angers, qui est à la lutte pour l'accession directe. Ils ne sont que troisième, les Angevins. Ils ont été longtemps top 2, hein.
Bonsoir Greg, un match à grand enjeu. On va profiter du direct pour vous montrer sur les images de Tom Trichereau la reconnaissance pelouse des joueurs d'Angers et de Pau, notamment Imad Abdelli. C'est un joueur d'Angers qui est nommé pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 2. Il sera au trophée UNFP qui sera sur la chaîne L'Équipe. Grand enjeu parce que Angers effectivement est troisième à 2 points de Saint-Etienne qui joue demain. Il faut mettre la pression sur Saint-Etienne et viser ces deux premières places qui visent la montée directe. Et puis Pau aussi peut aller chercher un top 5. Ils sont à 4 points du Pau, du Paris FC. Et donc il y a encore un espoir pour Pau, pour Angers, pour monter en Ligue 2. Rendez-vous à 19h55, la soirée Ligue 2. Elle sera animée par Messaoud Ben Terki. Coup d'envoi à 20h.
Jérémy, question avant que vous partiez. Elle n'est pas à vous cette chemise?
Malheureusement, non, mais j'ai pas envie de répondre à cette question.
Adieu, Jérémy. C'est votre dernière dans l'EDG. Évidemment, elle est à Caro. Voici le foutoir à un horaire inhabituel. C'est Raphaël Sebaoui. Ah oui, puisque comme on rend plutôt événement exceptionnel, il y a du foot en direct derrière, on bouge un petit peu nos cases, le foutoir, Raphaël avec Leverkusen qui s'impose à Rome, invincible.
Oui, dans la demi-finale aller de la Ligue Europa, on parlera de celle de l'Olympique de Marseille d'ici quelques instants. Le succès 2-0 du Bayer Leverkusen face à la Roma, l'erreur défensive, dans la suite la remise en retrait, et c'est ce but de Wirtz qui marque à la 28e minute de jeu, derrière le but du 2-0 d'Andrich, la frappe de loin, on en a mis quelques-unes à l'international autrichien, celle-là elle est belle, elle est magnifique. Ça fait 47 matchs qui sont invincibles
convaincus, hein, les joueurs du Bayer Leverkusen. Option importante en vue de la finale à Dublin le 22 mai avant le match retour à la Bay Arena. Ce sera jeudi prochain.
Qui va les battre? Qui peut battre? Je souhaite que ce soit Marseille s'ils sont finales, hein, c'est pas la question, mais c'est extraordinaire, Anthony, ce que fait Leverkusen. Chaque fois, là, ils ont enchaîné des matchs nuls en égalisant la 96e, peut-être même 97. Et là, ça gagne à la Roma, quoi.
Oui, la limite, c'est moins impressionnant quand ils gagnent normalement. C'est moins bluffant que quand ils égalisent à la 90e. Voilà, moins spectaculaire. Mais oui, c'est une équipe qui est vraiment en pleine confiance. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'ils arrivent à garder ce rythme une fois que le premier objectif est atteint, d'être aussi encore galvanisé par cette série d'invincibilité. Oui, maintenant, ils pensent qu'à ça. Et quand on les voit jouer, on se dit clairement qu'ils en sont capables. Parce que la demi-finale d'hier entre l'Atalanta et Marseille n'a pas montré, pour moi, deux équipes capables de rivaliser avec eux.
Oui, mais alors sur un match, Karim, c'est pas tout à fait la même histoire. Je me fais moi-même un bingo, mais enfin, vaut mieux les jouer en finale qu'en demi-finale.
Que ce soit l'Atalanta ou Marseille, d'ailleurs, en finale contre les Leverkusen. Évidemment que les Leverkusen sera favori face à ces deux équipes, face à l'une de ces deux équipes, mais sur un match, on a déjà
vu ça. Après, c'est pas de peau, ils ont déjà vécu l'Atlético, par Marseille, c'est toujours des gros adversaires.
Oui, bien sûr, mais... Moi, je les trouve très forts, forts, mais voilà. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Et pourquoi ça ne s'arrêterait pas en finale de Coupe d'Europe contre l'Atalanta ou Marseille? Donc, avec la pression de gagner un trophée européen, vous ne jouez pas de la même manière qu'un match de championnat où vous égalisez.
La pression, quand même, ça ne leur fait pas peur pour l'instant. Non, mais la pression, ils la gèrent en fin de match. Oui.
Parce que là, la pression sur le dernier match de championnat pour rester invaincu, elle va être énorme. Ouais. Je me souviens que la saison des Invincibles d'Arsenal en 2004, le dernier match à domicile contre Leicester, ils sont menés 2-1 à la mi-temps et ils sont tous comme des dingues. Ouais. Et pour finir la saison invaincue, c'est un truc fantastique.
Après, ils étaient ivres morts, ils arrivent à égaliser à 97e.
oui, mais bien sûr, mais c'est ça qui est fantastique. Ouais, mais chaque match, ils sont obligés de défendre ça.
Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit Xabi Alonso dans ces cas-là? Est-ce qu'il en parle de cette série d'invincibilité ou les joueurs savent?
Il n'a pas besoin d'en parler. Dans ces moments-là, les joueurs ils se mobilisent eux-mêmes et c'est l'objectif, il devient personnel, c'est à travers le collectif. Mais ils ont tous envie de réussir ce truc-là. Ceci dit, quand tu dis sur un match c'est possible, non, l'Atalanta ou Marseille n'ont pas les moyens. Même sur un match de
basket. Oui, mais il peut y avoir un fait de jeu, regardez le PSG.
Oui, il peut y avoir un fait de jeu. Mais les faits de jeu, ils arrivent des équipes qui sont un peu fragiles.
On a déjà vu ça, Raymond, dans l'histoire du foot.
Oui, c'est quoi?
La Grèce en 2004, personne n'aurait mis une pièce sur la Grèce en 2004 qui tape le Portugal en finale.
Deux fois, ils les ont battus.
Et en plus,
ils les ont battus dans la poule.
Propre euro. Donc, franchement, sur une finale de Coupe d'Europe.
Oh, c'est très excitant.
On parle pas d'un club de 5e division contre une Ligue 1 en finale de Coupe. Là, on parle d'une équipe qui joue dans un championnat majeur. Malgré tout.
Enfin, Marseille est 9e quand même.
Et ils sont quand même en Ligue des Coupes d'Europe.
On va en parler dans un instant. Gardez des forces pour Marseille. On va enchaîner parce que dans la C4, l'Olympiakos et la Fiorentina prennent une vraie option sur la finale.
Et l'Olympiakos va créer la surprise dans cette demi-finale aller face à Aston Villa en Angleterre. Victoire des Grecs face à l'équipe qui avait sorti Lille au tour précédent. Al-Kabi, 16e minute de jeu qui ouvre le score pour les Grecs. Il va s'offrir un doublé à la 29e minute de jeu. Juste avant la pause, Ollie Watkins va redonner espoir à Aston Villa. Moussa Diaby va même égaliser à la 52e minute de jeu. Mais Al-Kabi va redonner l'avantage à son équipe. Un triplé pour lui, 56e minute de jeu, avant que Eze marque le but du 4-2. Donc belle option prise. Et Aston Villa devra à tout prix s'imposer au retour contre l'Olympiakos pour espérer voir la finale. Dans l'autre demi-finale aller, la Fiorentina, vous l'avez dit Greg, après un petit avantage sur le club de Bruges, 3-2, saute-t-il l'ouverture du score de la Fio à la 5e minute de jeu, superbe but. Van Aken sur pénalty à la 17e minute qui égalise. Puis Belotti va redonner l'avantage à la Fiorentina, l'ancien joueur de l'AS Rome et du Torino, avant l'égalisation de Thiago à la 63e minute de jeu. Et c'est Mbala Nzola à la 91e minute qui va donner ce petit avantage à la Fio avant la demi-finale retour jeudi.
Et puis, comme il n'y a pas de hat-trick, il y a un foutoir avec beaucoup de buts. On part en Angleterre, Chelsea qui se relance face à Tottenham.
En match en retard, comptant pour la 26e journée de Première Ligue, après la défaite 5-0 contre Arsenal, le nul 2-2 face à Villa, eh bien Trevoh Chalobah va marquer ce but, il va ouvrir le score à la 24e minute de jeu, et puis ensuite il y a ce coup franc de Cole Palmer, ça tape la barre transversale, Nicolas Jackson va être à l'affût et doubler la mise. Ce succès permet à Chelsea de se replacer au 8e rang au classement et de rester au contact avec un match de retard, et à 3 points donc de Manchester United qui est 6e.
Bon, on va maintenant passer à notre gros dossier du soir. L'OM contre l'Atalanta, un partout, Raphaël, hier soir au Vélodrome.
Oui, avec cette ouverture du score de l'Atalanta Bergame, on est à la 11e minute de jeu, servi par Coupe Miners. C'est Gianluca Scamacca qui contrôle avant d'enchaîner avec un tir. 1-0 pour l'Atalanta Bergame. L'égalisation de l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba, son quatrième but dans la compétition. Superbe frappe de loin de la part d'Mbemba. Harit sert au Bameyang, la balle de 2-1. La frappe du gauche, mais c'est trop croisé de la part de l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Autre balle pour mener dans cette rencontre. Unai qui glisse au moment de frapper. Ça va taper la barre transversale. On va écouter Jean-Louis Gasset. Score final, un but partout, je le précise. Oui. Goût amer pour l'entraîneur de l'OM.
Un petit goût amer. Conscient d'avoir fait le match qu'il fallait contre une bonne équipe. Mais on dit souvent que les matchs se jouent sur des détails. Et je pense que les deux ou trois détails étaient en notre faveur. On est à la mi-temps d'un match. On est un partout. On a eu des occasions. On a eu une barre. On a eu un but refusé. Donc ça laissait quand même beaucoup d'espoir.
Voilà, beaucoup d'espoir et beaucoup de regrets. Alors on n'est pas parti comme les copains sur espoir et regrets. Ça a été dit, ça a été fait. On n'est plus dans le débrief. On se demande si l'OM a laissé passer sa chance avec toutes ses occasions. Alors, passons de demander si vous êtes optimiste ou pessimiste. Ça dit quoi du côté de Camille? Bah oui, ils ont laissé passer leur chance. Non, au contraire, pour Karim Benani. Une chance, il en reste. Pour Vincent, de l'autre côté, non, il y a encore la place pour Anthony. Un peu quand même pour Raymond Domenech. Et oui, ils ont laissé passer leur chance pour Raphaël. Vous m'avez dit, j'en ai fait des matchs sur le Vélodrome, mais là, il y avait un bruit incroyable.
Franchement, on sentait que c'était un match important dans la saison de Marseille, dans l'histoire de l'OM aussi, pas peur des mots, c'est une demi-finale de Coupe d'Europe et on n'en joue pas tous les ans en France. Donc on sentait que le public était au rendez-vous et je trouve que l'OM a été à la hauteur de son public hier. Et ça, c'est un élément important, ça n'a pas toujours été le cas cette saison en championnat, en Coupe d'Europe un peu plus. Et hier, Marseille a montré... que cette équipe avait du cœur, que cette équipe avait envie d'aller en finale, que cette équipe ne faisait pas de complexe d'infériorité contre l'Atalanta Bergame. L'OM a regardé dans les yeux cet adversaire-là. L'OM aurait pu se déliter après le but de Scamacca. Et ça a été le contraire, justement. Je trouve que ça a été intéressant de la part de Marseille, comme contre Lens, finalement, le week-end dernier, où l'OM a pris un but, cette égalisation-là. Et finalement, l'OM a réussi à aller chercher une victoire avec les tripes. Et quand je dis au contraire, c'est aussi parce que, un deuxième élément au-delà de l'OM, l'Atalanta m'a déçu hier. C'est une équipe qui est plutôt une belle équipe avec quelques belles individualités, mais hier, j'ai pas reconnu l'équipe que l'on m'a qu'on a pu me décrire ces dernières semaines. Équipe super difficile à jouer, vraiment forte en possession. Non, j'ai vu une équipe qui était apeurée, qui a eu du mal à sortir le ballon. Donc à domicile, évidemment que ce sera différent.
Qui n'est pas morte et qui repart sans défaite.
Oui, mais évidemment que ce sera différent. La physionomie sera différente, mais je préfère voir Marseille, pour terminer, défendre un résultat comme celui-ci et aller chercher une qualification plutôt que d'avoir peut-être mené dans ce match-là et de conserver un résultat. L'OM ne sait pas faire. On l'a vu contre Villarreal, l'OM ne sait pas faire ça. Cette année, l'OM n'a pas réussi, non pas les joueurs, pour conserver un résultat. Et je pense qu'il faut aller chercher une qualification et l'OM sera meilleur dans cette configuration.
On va débattre de ça avec ton copain autour de la table parce que c'est un parti pris intéressant. Camille.
Karim l'a dit, le Vélodrome était au rendez-vous hier, même si c'était peut-être un petit peu moins fort, hein, un petit peu moins tendu aussi que le match retour face au Benfica, stress de la qualif en moins, évidemment. Mais quelle ambiance incroyable d'abord dès l'entrée des joueurs marseillais sur la pelouse avec ses tifos, le public qui répond présent, puis ensuite avec les fameux aux armes d'un virage à l'autre pour faire taire les quelques 2600 supporters italiens. Jean-Louis Gasset est très ému après le match de tout ce soutien reçu, n'hésite pas à souligner l'importance que cela a eu et notamment comme l'a dit Karim, après le but encaissé dès la 11e minute, le but inscrit par Scamacca, Jean-Louis Gasset a vu ses hommes se relever.
On est mené 1-0, j'ai vu les joueurs qui repartent en avant pour dire non, c'est il faut qu'on se détende pour... Et c'est grâce à eux. C'est grâce à eux, c'est eux qui nous donnent ce supplément d'âme, c'est eux qui nous donnent la confiance et c'est eux qui pratiquement égalisent. Donc, magique.
Et puis ce sont ces mêmes supporters qui ont poussé, qui ont vibré à chacune des occasions marseillaises. D'ailleurs, Gasperini, le coach de l'Atalanta, qui s'attendait à une soirée difficile, eh bien, il n'a pas été déçu.
Beh, questo è uno stadio meraviglioso. C'est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu'il donne à son équipe, ça leur offre quelque chose de plus. Nous, on a souffert, mais on a joué avec personnalité. Et ce n'était pas facile dans cette atmosphère.
Les journalistes italiens, eux aussi, ont découvert ce qui fait tant la renommée de ce stade Vélodrome, comme Giorgio Dussi, ébloui sur ses réseaux sociaux. Je ne sais pas combien de stades en Europe ont une ambiance qui se rapproche même de celle du Vélodrome. Pour gagner ici, dans une telle ambiance, on a le sentiment qu'il faut un véritable exploit. Anfield ressemble à une bibliothèque en comparaison. Et même en fin de match, les supporters ont continué d'apporter leur soutien, tous unis avec leurs joueurs. Bon, alors ils ne seront pas là la semaine prochaine. On rappelle, les Marseillais joueront devant seulement 16 000 personnes parce que le stade de l'Atalanta est en travaux. Donc c'est peut-être avec ce vélodrome en feu que Marseille a peut-être laissé passer un petit peu sa chance.
On va prendre le temps de parler de l'OM. Anthony, vous suivez l'OM au quotidien pour le journal de l'équipe. Donc je viens vous voir au quotidien sans jeu de mots et on pourrait le faire.
C'est brillant.
Cet OM-là qu'on annonçait mort il y a un mois et demi...
Il y a 6 mois aussi, il y a 3 mois aussi.
Mais oui, mais un peu comme le PSG qui a vu le précipice, je cite le grand Sébastien Tarrago, voilà, ils sont toujours là. Il y a un truc quand même qui fait qu'on croit qu'ils ne vont pas y arriver, puis finalement à la fin ils y arrivent. Hier, ils se donnent une chance d'y croire.
Oui, il y a un truc, mais d'ailleurs c'est un peu la tarte à la crème du public, Gassé qui sait très bien utiliser ces ficelles-là. Ça avait commencé contre Donetsk pour son premier match, où déjà il misait beaucoup sur ça. C'est un cliché, mais à Marseille ça ressemble souvent à une réalité aussi. C'est vrai qu'hier... il s'est vraiment passé quelque chose de différent parce qu'il y a cette atmosphère-là. Des fois, ça peut être un poids dans le passé, même pour les Marseillais. Là, cette équipe-là, même si elle est plus limitée que certaines qui ont joué dans ce stade, bah, elle sait s'en servir. Et ça, c'est un vrai atout. Et c'est pour ça que le bilan aujourd'hui, il est contrasté parce qu'on se dit que cette équipe-là, moi, je la sentais pas capable de faire ce match. Donc, c'est un point positif parce que si elle l'a fait hier, pourquoi pas le refaire la semaine prochaine. Mais en même temps, sa saison montre qu'elle a parfois du mal à se hisser à ses hauteurs. Et l'Atalanta qui a été décevant hier... je me dis qu'il y aura forcément une réaction jeudi dans une toute autre atmosphère. Donc c'est un bien compliqué à gérer. Mais le fait que Marseille soit encore en vie après ce match-là et en ayant vécu cette soirée-là, c'est impossible pour moi de tirer un bilan négatif parce que c'est quand même assez inespéré au regard de la saison et au regard même de ce qu'on pouvait espérer hier avant le coup d'envoi.
Maintenant, l'interrogation, c'est comment ces Marseillais vont jouer à l'extérieur parce que c'est une catastrophe cette saison. Cette saison, en Ligue Europa, c'est seulement une victoire sur 6 matchs, c'était face à la EK Athènes. En Ligue 1, c'est seulement 2 victoires sur 15 à l'extérieur, c'était face à Lorient et face à Clermont. C'est quand même l'avant-dernière équipe au classement en Ligue 1 à l'extérieur, à l'Olympique de Marseille, 17e sur 18. Et puis, cette capacité à marquer très peu de buts à l'extérieur, toute compétition. Sont confondus, 1,25. Et il va falloir en marquer des buts face à Bergame.
Ah, pas forcément. 0-0, tir au but.
Oui, tir au but. Oui,
je suis désolé. 0-0, tir au but.
C'est vrai.
Mais le bus. Voilà. Mais bon. Ils mettent le bus, les Marseillais.
Ils ont du mal à ne pas en marquer aussi.
À l'italienne.
Bah voilà. C'est ça qu'il faut faire, Raymond. Le bus.
Bah, je ne sais pas s'ils ont les moyens de jouer autrement. Je vois pas. J'imagine pas qu'ils sont capables d'aller chercher les Italiens, de les presser, de garder le ballon.
Moi, je ne sais plus quoi imaginer.
J'ai du mal. Mais s'ils restent groupés, solides, comme le disait Jean-Louis, ils ont bien défendu. Le groupe défend bien, tout le monde fait des efforts. Après, ils auront une ou deux possibilités à exploiter en compte. Mais je ne vois pas comment ils peuvent jouer autrement. On résiste, on tient. Ce qu'ils ont fait contre Benfica, Jean-Louis l'a dit, l'essentiel, c'était de ne pas prendre de but. On savait qu'on pourrait en marquer un à un moment ou un autre. C'était à domicile, d'accord. Mais c'était le même principe. Mmh. C'était, on est solide et on a des joueurs qui peuvent aller dans la profondeur. Donc ça,
hier, ils ont fait ça aussi.
Enfin, ils ont fait ça pareil.
En sautant le milieu, en jouant la transition avec
Aubameyang. En jouant long, mais c'est un jeu qui leur va bien. Je veux dire, au moins, c'est un entraîneur qui est cohérent avec le potentiel de ses joueurs et il les fait jouer comme... dans des conditions où ils seront le plus efficaces. C'est
alors,
mieux.
Alors cela dit, Vincent, on a souvent convoqué les rationnels. Hier, on parlait d'irrationnel pour l'OM. Il y a une semaine, on disait qu'il fallait qu'il soit magique, ou il y a 15 jours contre Benfica. On utilise ces mots-là pour l'OM. Voilà, le vélodrome, tout ça, ça n'a pas vraiment de sens technique, on va dire. Le but d'Mbemba, personne ne peut imaginer qu'il va mettre cette frappe. Il se passe un truc quand même. Est-ce que c'est l'Atalanta qui a été décevante ou est-ce que c'est l'OM qui a été brillant?
Mais c'est ça qui en dehors des chiffres... Oui. Déprimant.
Oui.
Désolé. Déprimant. J'y croyais avant qu'il parle. Avant qu'il parle.
Pas les premiers les jours.
Assez jouable et tout. Non, mais là, franchement.
C'était pas voulu, pardon.
Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'OM peut pas faire beaucoup mieux et que l'Atalanta peut faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui est un peu gênant pour le rapport de force, au match retour. En revanche, si l'OM est sérieux et défend avec autant d'acharnement, et avec un peu plus de justesse, enfin moins de déchets dans la première passe, la récupération, ils ont des fois des bons coups à jouer. Et parfois, ils se sont trompés de 10 mètres, enfin, combien de fois, même Kondogbia, qui est censé avoir un pied gauche, des fois c'était pouf, ça partait n'importe où.
Kondogbia, il a une saison très difficile, mine de
rien. Voilà, même Verretou, qui est quand même un gars qui joue juste, il n'a pas non plus été de.
Mais voilà. C'est bon signe, ils peuvent être que meilleurs.
Oui, ils peuvent être que meilleurs, mais bon, moi franchement, je ne m'attendais pas, je suis d'accord avec Anthony, je ne m'attendais pas à ce que l'OM fasse ce match-là. Vraiment, je l'ai trouvé très bien. Mais même, j'ai vu ce pauvre Ndiaye, vous l'avez. Vous en avez dit beaucoup de mal.
Dans l'entrée.
Non, Sarr, vous en avez dit beaucoup de mal. Et j'ai trouvé que dos au but, il avait été intéressant, il a permis au mec de remonter, il avait été.
Il a fait une prestation de la Mbanya intéressante, oui, mais avec le ballon, ça allait pas trop.
Oui, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un mais facteur X.
Je trouve que c'est qu'il y a des choses. Franchement, j'ai vraiment trouvé que c'était un vrai match de Coupe d'Europe. Ils ont fait un vrai match de Coupe d'Europe et ce qu'ils font en Ligue 1 ne nous préparait pas à ça. Il faut quand même dire les choses.
Non, mais ils ont des phases quand même, parce qu'ils ont ils étaient remontés à un moment, ils ont recoulé, puis ils sont remontés, ils ont recoulé. Et là, ils repartent.
Et puis surtout, je pense, et ça, c'est Raymond qui pourrait nous le confirmer, mais qu'à ce moment-là de la saison, évidemment que le talent fait souvent la différence dans un match de Coupe d'Europe. Mais quand vous en arrivez là, il y a aussi le cœur et le courage que vous y mettez. Et donc les stats dont tu parles, Raphaël, qui sont en corrélation avec le championnat, veulent plus rien dire à ce moment-là de la saison pour moi. Parce que sur un match de Coupe d'Europe, avec un scénario complètement différent, où tu vas devoir défendre, où tu attaques pas de la même manière, ou si tu prends un but, c'est différent, la physionomie sera différente.
Mais t'as gagné 3 matchs sur 21 à l'extérieur.
Mais peu importe.
3 sur 21
mais
en Ligue Europa et en phase élimination directe, 0.
Peu importe, l'irrationnel en Coupe d'Europe. Quand tu regardes le Bordeaux-Milan de 96, l'équipe elle est à l'agonie en championnat, ils sont 15e, ils mettent 3-0 au bilan de Savicevic.
Il n'y avait pas les mêmes joueurs, pardon. Il n'y avait pas les mêmes joueurs.
Vous avez Dugarry, Zidane, Lizarazu.
Ils sont 15e en championnat
puis,
à ce moment-là.
Et
ils sont très mauvais. Mais ils sont très mauvais en championnat. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation avec le championnat normalement. Un match de Coupe d'Europe, ils le savent. Mmh. L'équipe de Marseille qui va en finale et qui, contre Salzbourg, est en train de perdre 2-0 et se qualifie avec ce but de Rolando. Okay. Ce match-là était pourri de l'OM ce jour-là. L'OM a perdu.
Alors, attends, on va faire simple.
L'OM s'est qualifié.
Qui croit. Voilà, on va faire simple. Et puis après, on joue. Qui croit autour de la table que l'OM va se qualifier. Voilà. Karim,
moi je pense que.
Non mais prenons des pas infos, mais là sur le Philippe Vincent, vous y croyez aussi?
Non mais j'y crois, pas beaucoup, mais j'y crois. Si, j'y crois.
70-30 quoi. Pour l'Atalanta.
Non, 60-40, allez.
60-40, Anthony.
Moi j'y crois, et c'est parce que j'y crois que je pense que tout est en place pour une élimination hyper cruelle.
Mais vous êtes un monstre. Ouais. Hein. Mais c'est un monstre, Raymond. Non, vous y croyez pas.
Hein. Il est comme les bookmakers. La cote de la qualification.
Vous êtes très pénible ce soir.
Attendez, je vais remonter le moral avec la part des équipes qualifiées. D'abord, les bookmakers, la cote de l'OM, la qualification pour la finale, c'est 2,93. Allez, on va se rassurer avec ce chiffre. La part des équipes qualifiées en Coupe d'Europe après un nul à domicile à l'aller depuis la fin du but à l'extérieur, 52%. Une chance sur deux. Allez.
Allez, c'est vendu. Vous savez qui a une chance sur deux de gagner? C'est pas Raymond. Voici le survivant.
Je vais m'accrocher sur ce truc-là.
C'est vrai, en plus, vraiment. Non, mais en plus, genre, on l'a confectionné pour vous.
Il y a eu une question.
Vraiment, on l'a confectionné pour vous.
Ah bon?
Et je n'ai même pas fait de question de rapidité, vous allez commencer.
Oh, ça va?
Ouais.
Vous avez la victoire aussi?
Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça.
J'ai demandé, j'ai eu les réponses.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez?
Vous êtes capable de perdre.
Vous allez râler? Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes.
Fais ce que vous voulez. Je serai payé pareil. Allez.
Le survivant. On vous a pas dit?
Ah non,
ça va vous obliger à travailler tôt le matin. Alors, vous allez me retrouver les 15 buteurs des Bleus à l'Euro depuis 2000. Depuis l'Euro 2000, retrouvez-moi les 15 inclus. L'Euro 2000 inclus. Retrouvez-moi les 15 joueurs qui ont marqué des buts pour les Bleus à l'Euro depuis 2000. Raymond.
Mbappé.
Kylian Mbappé. Il a jamais marqué.
C'est terrible.
J'ai tout fait, mon.
Il a fait un seul Euro et il n'a pas marqué.
Il n'a pas marqué.
Anthony.
Je vais dire Antoine Griezmann.
Antoine Griezmann, il en a mis 7, c'est le meilleur buteur. Vincent.
Benzema.
Non, Benzema, il en a mis 4. Karim.
Zidane.
Zizou, il en a mis 5 depuis 2000.
Ah, depuis.
Camille. Ah oui.
Non, mais...
Je croyais que vous ne saviez plus.
Non, bah, quand même.
Trezeguet.
David Trezeguet, il en a mis 3.
Je m'en rappelle bien.
Ouais. Raphaël Sebaoun.
Thierry Henry,
il en a mis 6. Anthony Clément.
Olivier Giroud.
Il en a mis 3. Vincent Duluc.
Yuri Djorkaeff,
il en a mis 2. Bien joué. Karim Benani.
Dimitri Payet,
il en a mis 3. Bien joué. Camille.
Pogba.
Comment?
Pogba.
Paul Pogba, il en a mis 2. Bien joué. Et Rafou.
Sylvain Viltor.
Eh ben quand même. Sylvain.
Et attendez, tranquille.
Bien sûr, il en a mis deux. Alors, et s'il le terminait ce jeu, ouais. Anthony Clément.
J'ai
un doute sur tout ça.
Bah, là, c'est sûr que là, vous m'avez donné. Bon, très bien. Mais maintenant, comment on fait? Allez, je vous écoute, tantôt. 5, 4, 3.
Comment?
Comment? Non. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Non, c'est Vincent Deluc.
Anelka.
Nicolas Anelka n'a pas marqué à l'Euro.
À l'Euro 2000, il n'a pas marqué?
Non. Enfin, moi, je l'ai pas sur ma feuille.
Il marque pas à l'Euro 2000?
Passe D.
Passe décisive.
Passe D.
Ah bon?
Passe décisive.
J'aurais dit aussi. Alors, j'ai persuadé qu'il marque contre...
Passe décisive pour Henri, mais il marque pas à l'Euro 2000.
Ah merde.
Karim.
William Gallas, 2004.
Non.
Si.
Non.
Il marque pas en 2004?
Non. Arrêtez, vous mettez tout le temps. Lola Pérez. Attendez, il va chercher. Benoît, vous êtes sûr qu'il marque pas?
Non, c'est sûr.
On va chercher, mais il marque pas. Non, vous êtes en train de mettre un coup de pression. Camille, si vous avez raison, vous reviendrez.
Ribéry.
Franck Ribéry. C'est non.
Ah.
Il y a une balle de match pour un fou, là.
Dugarry, France, Pays-Bas.
Et Christophe Dugarry a marqué lors de l'Euro contre les Pays-Bas. Bien joué. Victoire de Raphaël Sebaoun, effectivement. Vous avez vérifié, il n'a pas marqué. Hein. Il n'a pas marqué, mon petit.
J'ai Laurent Blanc, Danemark.
Vous avez oublié tout l'Euro 2012. Vous avez oublié tout l'Euro 2012.
Il faut mieux. Hein.
Oui. Attendez, je vérifie avec Karim. Karim, vous avez vérifié?
Non, pas encore.
Il marque pas. Hein,
je regarde. Ça. Je regarde, vous inquiétez.
Regardez, il marque pas parce qu'après je vais tourner. 3, 2, 1, c'est bon. Il marque pas. Oui. Faites confiance à notre grand Benoît Pérez qui est dans l'oreillette. Alors, l'Euro 2012.
Euro 2012, ben oui.
Vous avez oublié.
Ukraine, Nasri.
Oui, Samir Nasri. Il marque
contre Angleterre.
Vous avez oublié un attaquant qui est passé par Sochaux, le PSG. Il joue encore, il est passé en Italie. Jérémy
Ménez.
Un garçon passé par le PSG, par Lille, par Newcastle, milieu de terrain.
Cabaye.
Ouais, Johan Cabaye. Et vous avez oublié.
C'est Blanc, Danemark. Blanc, Danemark, le Euro 2000.
Voilà, Laurent Blanc contre le Danemark. Effectivement, c'est lui qui marque celui-là. Bravo, Raphaël. Vous avez donné une leçon sur le plateau. Super. Maintenant, voici le zapping. Vous pouvez râler, vous êtes un peu dodane. Voici le zapping préparé ce soir par Sacha De Persin.
Florian Wirtz pour conclure, oui, sur la passe de Grimaldo. Et le premier but du match pour le Bayer Leverkusen. Énorme erreur de la défense romaine et tout le sang-froid des deux mètres à jouer du Bayer Leverkusen, Grimaldo et Wirtz pour conclure.
Et que Bedier n'a pas encore fait grand chose dans cette série, mais il reste un joueur, quand il en met un, tout peut se passer. Et ça, Flying Batum!
Mais il est incroyable.
Il a sorti sa cape de Batman pour aller chercher ce rebond offensif.
Oui, on n'a rien à faire. Bien joué de la part de l'EHK. Beaucoup mieux.
3 minutes encore dans ce quart de finale retour. Un but d'écart seulement, 30 à 29. On la veut cette parade de Yannick Green. Fradé, ah, il rate pas grand chose. Hein.
Toujours bien placé.
Il rate le rien même.
Avec Gonzalez, c'est bien fait, ça, ce renversement qui arrive côté gauche. On va peut-être rentrer dans l'axe et chercher la position frappe. Oh, le petit bijou dès le début du match pour la Fiorentina, Riccardo Sottil qui vient embraser le stade Artemio Franchi. Quelle frappe Marc Ibra.
Quel but, il a fait exactement le geste qu'il fallait. Oh là 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 là, il va la placer où il faut, le gardien ne peut absolument pas la récupérer.
Pour New York, et pour qui? Pour Josh Hart, Anunoby. Qui vient écraser ce ballon et en plus il a la faute d'Embiid. Il a refusé le tir à 3 points.
Il a eu raison. Il a envoyé une cartouche.
Mieux finir
cette première manche qu'avec un revers à une main long ligne gagnant Richard Gasquet.
Palmer. Oh, on the side of the bar. And then a header into the gaping net as Chelsea double their lead. Nicholas Jackson. And whilst he will take some of the plaudits, there'll be a whole lot more.
On a fait sortir le gardien pour attaquer à 7 contre 6. Brian Monté, c'est sur Thomas Schmerkvar, le thé avec qui il l'a fait, qu'il a remonté les 9 buts de retard du match aller pour se qualifier au Final Four. Victoire 31-21. Montpellier ne verra pas Cologne. Montpellier est éliminé.
Encore partie du bon côté, le passing gagnant. Elle attire la balle.
Frimpong qui l'a enlevé à Stanisic. Andrić lui va y aller et c'est dedans. Elle est bonne cette fois pour Andrić. Il s'est essayé 3-4 fois le milieu allemand. Et il finit par trouver la cible. 2-0 pour le Bayer Leverkusen à une vingtaine de minutes de la fin.
Allez, voici Antoine Pinot, la première partie du replay. Le replay, ce sera tout à l'heure à 19h40. Oh, quel athlète.
Je me dépêche. Ça va bien la forme.
Ça va super.
Bon, tout à l'heure, fouf, y'a fou. Pour rebrancher et remettre la boxe. Tout à l'heure, on reviendra sur la semaine européenne avec des supporters à Marseille qui nous ont régalé avec Candice Roland. On verra ça, mais pour l'instant, petit teasing. Ah, je fais court, hein, quand j'arrive, je bafouille, c'est plus simple. On débute avec Mourav Sebaoun qui a connu un petit problème.
C'est plutôt. Pardon, je m'étouffe.
Oula, bah alors, il va jouer ou pas?
Il est a priori, oui.
Il hochait la tête.
Oui. Meilleur buteur de cette équipe.
Oula, j'ai un. Non, t'es un fou, on part en plume. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1 spéciale. Course à l'Europe, agressé par un petit baby cat in the goal.
Dans l'équipe de choc, Bertrand Latour est très taquin avec.
Bon, je vais pas prendre des comparaisons malvenues, mais enfin, si tu reproches quelqu'un, un membre de ton entourage, c'est pas parce qu'il te l'explique que du coup t'es plus énervé.
Non,
bah là,
mais
c'est la même chose.
Mais j'aurais un peu plus compris peut-être.
Ah oui. Juste,
on a un petit
sur l'infidélité, par exemple.
Non, pas du tout. On a un extrait pour vous pour montrer à quoi ça ressemble, je crois.
Souvenez-vous, c'était la saison dernière mondiale.
Et puis Alicia Deby connaît le beau monde.
On sait déjà que le président sera devant le match jeudi soir.
Ah, vous connaissez l'agenda du président, vous?
Oui,
ah, oui. Avec bah, Alicia,
je vous donne une petite info comme ça.
Alicia connaît. Elle va envoyer SMS.
Non, je dis.
Oui, oui, non, mais vous allez vous noyer, c'est. Elle connaît l'agenda du président, c'est
ça. Ouais,
il va falloir un petit peu vous mettre au niveau. Elle connaît l'agenda du président.
Elle est au boulot, hein.
Ah, alors.
Gros relation.
Allez, filez, vous. Gredin, à tout à l'heure, 19h40 pour le replay. On va regarder le programme de la Ligue 1 parce qu'il est très alléchant. Puis là, ça devient chaud.
Ah oui, il y a 36e journée et plus beaucoup de journées à disputer. Il y a des enjeux à tous les étages. On rappelle que Paris et Marseille joueront plus tard cette 36e journée qui débute ce soir avec Lens face à Lorient. Samedi 15h, Le Havre-Strasbourg, Monaco face à Clermont. Il y aura également Metz-Rennes, Brest-Nantes. Il n'y aura pas de match dimanche 5 mai en hommage aux victimes de Furiani. Ça reprendra lundi avec l'affiche entre Lille et Lyon. Un point sur le classement quand même pour
bien situer
les enjeux de cette journée avec Monaco qui va vouloir conserver sa deuxième place car Brest est juste derrière. Lille est à l'affût également. Nice, Lens sont 5e et 6e et puis en bas de tableau la lutte pour le maintien avec toujours Metz qui est en position de barragiste, Lorient et Clermont en position de relégable.
Et dans quel match y a-t-il le plus d'enjeux? Voilà la question qu'on vous a posée. C'est pas simple, ça permet de parler de la Ligue 1 cette question évidemment. Regardons vos ardoises et vous me dites pour Camille Makelli, Lille-Lyon, Lens-Lorient, on en parlait tout à l'heure avec Karim, Lille-Lyon également pour Vincent Duluc, Brest-Nantes pour Anthony Clément, pour Raymond, tous sauf Toulouse-Montpellier et tous aussi pour Raphaël. C'est bon Raymond. Vincent, Lille-Lyon, c'est pour l'Europe. Il y en a, c'est pour la C1, l'autre c'est pour réussir un exploit. Il faut dire les choses.
Mais c'est un enjeu énorme pour Lyon parce que s'ils perdent ce match-là, ben, ils joueront l'Europe. Le coup, ils retournent à Lille le 25 mai pour jouer la finale de la Coupe de France contre le PSG et ça sera leur seule chance. Mmh. Et pour les Lillois, c'est aussi la dernière chance d'aller en. Enfin, dernière chance, oui, c'est une vraie chance d'aller en Ligue des Champions. Voilà. Et pas décrocher Brest, et pas décrocher de Brest. Voilà. Les Lillois sont peut-être une. Allez, franchement, c'est vraiment une bonne équipe des matchs retour. Ce qu'ils font, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, je pense pour eux c'est un gros virage.
Et vous pensez les Lyonnais capables de résister aux Lillois?
J'en sais rien. Les Lyonnais sont imprévisibles en ce moment. Ils ont une grosse réussite. Alors ils font beaucoup de choses pour la mériter, hein, leur réussite. Mais ça tourne, bon, en dehors du PSG où ils ont explosé, mais le reste, ils gagnent des matchs qui sont compliqués à gagner souvent, quoi. Y compris contre Monaco, voilà, en fin de match, etc. Non, ils ont vraiment de la réussite en ce moment, et bon, ça peut peser. Hein.
On se positionne sur ce Lille-Lyon, si Raymond, avec vous quand même, pour un mot de vos camarades lyonnais.
Oui, mais il y a Brest-Nantes. Qui est pas mal aussi.
Parce que là, c'est pour l'Europe, pour la C1 et pour le maintien. Hein.
En même temps, ouais, c'est ça. Là, les deux jouent à peu près une place européenne. Les autres, il y a une intensité dramatique qui est plus forte dans certains matchs. Où y en a un qui va être condamné, déjà ce soir, avec Lorient. Quoi. Je trouve qu'ils ont plus d'intérêt. Mais c'est vrai que Lyon, s'ils ne font pas un résultat là, voilà, ils seront 8e. Si tout va bien, ils ne seront pas européens, sauf à gagner contre le PSG en finale. Mais je vois pas comment ils peuvent faire, vu ce qu'on a vu dans le match de championnat.
Puis il y aura un duel de buteurs. Seront-ils encore là en Ligue 1 la saison prochaine? Jonathan David, Alexandre Lacazette, qui en 2024 ont surperformé. 12 buts pour Jonathan David, 9 pour Alexandre Lacazette. Jonathan David impliqué sur 56% des buts du LOSC face à, pareil, Alexandre Lacazette, qui est quasiment sur la moitié des buts de l'Olympique Lyonnais sur l'année civile.
Bon, on va revenir sur Brest-Nantes dans un instant, mais comme on a Timothée Mémon également à Lens, Karim, vous avez choisi ce Lens-Lorient. C'est un peu le même constat pour Brest-Nantes, même si voilà, les extrêmes sont un peu moindres, parce que Lens, c'est pour une qualif en C3 et Lorient, c'est pour survivre.
Voilà, en fait, c'est ça. Moi, c'est surtout pour Lorient. C'est-à-dire que ce match-là, si jamais les Lorientais le perdaient et que dans le même temps, ce week-end, Metz gagnait, Lorient serait quasi définitivement en Ligue 2. Et vu les investissements, les salariés qui composent ce club-là, ce serait une catastrophe économique. On le disait tout à l'heure, 8e budget du championnat, catastrophe économique pour le club de Loïc Ferry. Et voilà pourquoi c'est vital. Ce match-là est vital pour les Lorientais. C'est peut-être l'un des matchs les plus importants de l'histoire de ce club-là.
Il est dur, ce match.
Galvaudée, franchement, l'affiche, il ne faut pas la galvauder, justement. C'est une affiche qui est hyper importante pour cette équipe-là. Lens pourra se relever d'une non-qualification européenne. Lorient, en cas de descente, on a vu ce qui se passe avec Troyes, notamment cette année, et ce qui s'est passé ces dernières saisons avec certains clubs qui ont du mal après à remonter. Derrière, vous coulez complètement. Regardez Bordeaux aujourd'hui qui n'arrive même plus à remonter. Donc voilà, c'est vital pour l'histoire de Lorient, et voilà pourquoi ce match-là, pour moi, revêt d'une importance capitale pour les Merlus.
Timothée Mémon est notre envoyé spécial à Lens. Lens-Lorient, vous avez entendu Karim. C'est vrai qu'il y a de l'enjeu pour les deux équipes, mais le curseur est sans doute plus dramatique pour Lorient, comme le disait Karim. Comment peuvent-ils faire ce soir face à un adversaire normalement plus fort, alors que ces derniers temps, ils n'y arrivent pas du tout, Timothée, les Lorientais?
Ouais, il est clair qu'il va falloir trouver des ressources que Lorient n'a pas montré jusqu'à présent. Le jeu si léché de Régis Lebris s'est étiolé au fil de la saison par rapport à la saison dernière, aussi parce que les meilleurs joueurs sont partis. Du coup, il va peut-être falloir faire appel à des ressources un peu plus mentales, un peu plus de hargne. Mais j'abonde totalement dans le sens de Karim, parce que ce match, il est très important. Évidemment, l'équipe qui a le plus à perdre, pour moi, c'est Lorient, parce que une descente, certes, dans un premier temps, vous avez un parachute qui vous est offert, entre guillemets, par la Ligue pour que financièrement ce ne soit pas trop catastrophique, mais ce parachute ne dure que 2 ans. Et après, c'est synonyme de plan social dans une économie comme celle d'une ville de Lorient. On peut imaginer ce que cela représente, des restructurations, des gens au chômage, tout simplement, alors qu'effectivement, Lens, de son côté, pourrait ne pas se qualifier pour la Coupe d'Europe, mais ça ne changera pas la vie des administratifs et des cadres lensois. Donc il va falloir que Lorient, voilà, aille chercher des ressources qui vont peut-être au-delà de celles du jeu prôné en temps normal par Régis Lebris.
Merci Timothée, vous restez avec nous. Raymond, il fait quoi Régis Lebris là, parce que 5 défaites de suite, à chaque fois, à chaque journée, on dit ça y est, ils n'y arrivent pas. C'est quoi les ressorts?
Il prie. C'est ce qu'il peut faire. Il a essayé toute l'année, il essaye, ils étaient bien partis. Son équipe, elle se dilue. Et il y a des fois, non mais des fois, il n'y a pas d'explication. Vous pouvez chercher. Nous, je veux dire, dans ce métier, on essaye toujours de trouver des explications. Mais c'est vous, quand vous êtes face à un groupe comme ça et que tout tourne dans le sens inverse et que vous avez beau faire ce que vous voulez, tout le monde est motivé, tout le monde a envie de faire. Et ils parlent entre eux, tout le monde est... L'entraîneur, il a ce qu'il avait l'année dernière. Il n'est pas plus mauvais que l'année dernière, où ils ont fait un bon parcours.
Alors, on lui avait enlevé des joueurs à mi-parcours,
oui.
Là.
Il a une équipe qui a un peu bougé. Ils ont mal remplacé. Ouais. Et l'équipe, elle est en difficulté. Mais Lorient a une équipe qui, quoi qu'il arrive, tous les ans, serait plutôt dans la deuxième partie que dans la première partie.
Cette année, il y avait de l'ambition.
Oui, mais moi, je suis content que pour une fois, le budget n'ait pas de relation avec la réalité des joueurs. C'est bien. Parce que sinon, on affiche le budget au début de saison et on dit le premier, c'est lui, le deuxième. Et puis
parce que dans ce cas-là, Marseille ou Rennes sont mal placés.
Voilà, donc c'est bien qu'il y ait des possibilités que. D'autres équipes arrivent, Brest, arrivent à faire autre chose sans un budget extraordinaire. Ça prouve qu'on peut travailler autrement qu'en achetant tout et n'importe quoi.
D'ailleurs, ce n'est pas les budgets qu'il faudrait tenir compte, c'est les masses salariales. C'est vraiment les masses salariales qu'on doit
avoir. Il y a quelques écarts entre les budgets et masses salariales, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas là où ils devraient être. Émilie.
Oui, côté Lançon, en tout cas, on est rassurés. L'équipe n'est pas non plus resplendissante pour le sprint final. Mais en tout cas, Francaise a longuement été interrogé hier lors de sa conférence de presse, évidemment, sur son avenir. Eh bien, il se projette encore avec cette équipe lançoise.
Jusqu'en 2027. La deuxième réponse, c'est que je prépare, et depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, la suite. Je prépare la suite sur la signature des jeunes pros, je prépare la suite sur le recrutement, je prépare la suite sur l'effectif. Alors peut-être que je ne serai pas l'entraîneur l'année prochaine, parce que dans le football, je ne peux pas vous donner une réponse aujourd'hui. Mais en tout cas, je fais tout comme si j'étais l'entraîneur à la reprise le 26 juin.
Il s'est montré plutôt rassurant. Qu'est-ce qui pourrait changer ça? Là encore, Francaise a assuré qu'une place européenne n'était pas dans la balance pour son choix.
Je suis au club depuis 7 ans, depuis 4 ans et demi avec les pros. Mon objectif, c'est toujours que le club avance. Mon objectif, c'est que le club toujours progresse. Ça ne veut pas dire progresser dans les résultats tout le temps, mais en tout cas que dans la construction du club, dans les infrastructures, dans les structures. Si je me mouille sur tous ces chantiers-là, c'est que j'ai quand même des perspectives de travailler toujours pour le club.
Même son de cloche pour Arnaud Pouille, le directeur général de Lens, joint par Joël Dominguetti, notre correspondant pour notre journal. Si les gens veulent bien l'entendre, au lieu de répandre d'autres informations, Francaise sera là en 2024-2025. Cette semaine, nous avons travaillé sur le prochain recrutement estival. Il est très impliqué et il n'y a aucun signal contraire au moment où je vous parle. Bon, après, on la connaît, la vérité d'un jour n'est pas celle, blablabla. Voilà.
C'était bien jusqu'à là.
Jusqu'à la dernière phrase. Voilà. Au moment où je vous parle. Oui, évidemment.
Bah, il a parlé hier après-midi à notre journal, après-midi.
C'est évidemment, on ironise par rapport à ça, parce qu'on a connu des présidents qui défendaient beaucoup d'entraîneurs, on a connu beaucoup de consultants qui disaient quand ils défendent les entraîneurs, généralement, les entraîneurs sautent. Un mot sur Brest-Nantes quand même, parce que là aussi, c'est une affiche qui vaut de l'or, c'est un derby breton. Généralement, historiquement, c'est l'inverse pour l'Europe, même si Nantes a des difficultés ces derniers temps. Mais la Brest peut frapper un gros coup et peut-être creuser l'écart sur Lille s'ils sont accrochés contre Lyon.
Oui, moi je pensais que tout le monde allait répondre Brest-Nantes et que je n'allais pas être original. Mais parce que moi c'est vraiment une équipe que j'ai envie de revoir après le match contre Rennes qui était fabuleux. Et surtout, c'est l'histoire pour moi de la fin de saison. C'est est-ce que Brest va arriver à se qualifier en Ligue des Champions. On sait déjà qu'ils vont être européens, mais accéder à la Ligue des Champions, ça serait avec ou sans barrage. Même ça, c'est pas garanti. C'est quand même l'histoire de cette fin de saison.
Ils ont 5 points d'avance sur le barrage par rapport à Nice, Anthony. Donc, ils sont top 4, a priori, quand même, non?
Oui, après, faut voir. Ils étaient, justement, avant ce match contre Rennes, ils avaient quand même un peu freiné. Ils étaient un peu rattrapés par la pression. Donc, faut quand même pas s'enflammer. Et c'est un match qui est d'autant plus fort qu'il y a aussi cette pression de la descente pour Nantes, qui n'est pas sortie d'affaire et qui envoie des signaux qui sont apparemment positifs. Donc, il y a une vraie dramaturgie sur ce match-là. Mais encore une fois, pour moi, c'est l'histoire de Brest qui emporte tout.
Et cette équipe de Nantes, attention, elle sera surveillée. Ce sera un adversaire de taille pour Brest. En 2024, c'est la cinquième meilleure équipe à l'extérieur. Les Nantais ont pris 14 points en 7 matchs. Donc il y a vraiment un intérêt à voir comment les Nantais vont jouer face au 3ème de Ligue 1.
Et le barrage, c'est pas un cadeau. Hein.
Comment ?
Le barrage, ça serait pas un cadeau. Non, c'est un cadeau pour personne, mais surtout pas pour Brest.
Si on rappelle, un top 3 directement en Ligue des Champions cette année, 4ème barrage. Dans un instant, PSG Dortmund, J-4. Nuno Mendes qui a été très décevant lors des derniers matchs. Hernandez, Lucas Hernandez qui est blessé. Est-ce que vous êtes très inquiet pour la défense du PSG? Est-ce que vous êtes un coup dur même en vue de la qualif? On aura le replay d'Antoine Pinot, puis on finira du côté d'Angers pour Angers. Pour tout de suite. Oh mais c'est Henri! Henri CV, ancien bordelais, qui joue avec Pau ce soir. Angers Pau, évidemment, à vivre sur la chaîne L'Équipe.
Joue
Mathieu Dossévi, à vivre ce soir sur la chaîne L'Équipe.
Pas très gentil.
J'écoute pas ce que dit Armand Domenech quand c'est Bordeaux. Il a porté le scapulaire.
Il était champion de Bordeaux.
Bien sûr,
il était
champion de France. Non, mais j'avais l'impression que j'avais joué avec lui.
Non. Henri CV, attention avec Henri. Bon, vous le savez, il y aura le replay d'Antoine Pinot. On va parler du PSG dans un instant. Et puis, on filera du côté d'Angers pour ce match entre Angers et Pau. Raphaël, on va commencer avec Lucas Hernandez, pardon, qui est donc forfait pour la C1 et pour l'Euro, on l'a dit hier.
Exactement, il va manquer beaucoup au Paris Saint-Germain et il va beaucoup manquer en Ligue des Champions. Cette saison, eh bien, c'est 11 matchs sur les 11 disputés par le PSG, 10 titularisations, il avait même marqué un but et il avait été l'un des cadres et l'un des joueurs importants, en témoigne sa note moyenne régulière, 5,6 sur 10 dans cette campagne européenne.
Alors, en plus de la blessure de Lucas Hernandez, on va rajouter la méforme de Nuno Mendes en tout cas. C'est un peu injuste peut-être pour lui, mais ce retour de blessure difficile. Est-ce que avec ces histoires-là, vous êtes très inquiet pour la défense du PSG? Regardons vos ardoises. Vous me dites quoi? Un petit peu quand même pour Camille. Oui, pour Karim. Comme d'hab en fait finalement, et concernant les occasions pour Vincent. Vous voyez, c'est presque un non ça. De l'autre côté, c'est un non. Et à chaque fois vous créez
un soleil.
C'est remarquable. Oui, Raymond, il est inquiet. À deux doigts rechausser les crampons, Raymond, parce qu'il avait aussi porté le maillot du PSG. Et un peu pour Raphaël. Pourquoi non, Anthony? Parce que là, cette ardoise m'a attiré là.
Parce que déjà très inquiet, parce que on parlait justement des listes de 26 joueurs à l'Euro qui souriaient au gros réservoir. Je pense que le PSG a quand même quelques joueurs pour répondre à ces problèmes-là. Je me dis que dans l'axe, Danilo Pereira a montré des garanties, y compris en Ligue des Champions, et qui peut faire la paire avec Marquinhos très bien. Ils se connaissent, il y a rien inventé, et ça m'inquiète pas forcément de le voir aligné aux côtés de Marquinhos contre Dortmund. Et pour Nuno Mendes.
Mais ça veut dire aussi en finale éventuelle. Enfin, je veux dire, c'est.
Oui, en finale aussi. Enfin, prenons les matchs les uns après les autres, si vous le permettez.
Oula. Ça, c'est un truc de joueur, ça. Ah,
c'est un truc de joueur, normalement, je ne pas ça. Il invente des choses.
Je lirai plus ses papiers.
C'est fini. Je me permets qu'ici, sinon, je monte le niveau un petit peu.
En revanche, une fois que vous aurez fini votre esprit.
Donc voilà, Danilo Pereira, moi, ça m'inquiète pas. Et Beraldo, même si ça a été compliqué dans le contexte d'une entrée à Dortmund, c'est pas non plus la même chose de commencer un match en se préparant pour. Et il a aussi déjà fait des bons matchs dans ce contexte. Donc,
ah bon?
Oui, contre la Real Sociedad, ça s'est bien passé.
Il a fait un bon match?
Bah oui, dans l'axe, oui. Pas latéral gauche, mais dans l'axe, oui.
Oui, à la Real Sociedad, il était bon.
Il sert l'écran.
Oui, quel match je l'ai vu où il a. Bah, c'est le contre Barça au match aller.
Oui,
c'était une catastrophe.
Quand
il
s'est exclu.
Bah oui.
Non, mais l'exclusion à Marseille, elle n'est pas forcément.
C'est pas qu'il a joué Danilo que Beraldo.
Oui, exactement. Non, mais moi, je me dis, voilà, la réponse, c'est que la charnière Danilo-Marquinhos ne m'inquiète pas, elle se connaît et elle présente des garanties de fiabilité.
Le Danilo du Havre, quoi. Après le Danilo du Havre, catastrophique.
Ce sera le Danilo Ligue des Champions, ne t'inquiète pas.
A priori, il y a trois candidats. Hein, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier Skriniar également, qui a joué.
Non, si, on peut l'oublier. Skriniar. Sinon, là, je suis très. Si on ne l'oublie pas, je suis très inquiet.
Écoutez, moi, je vous donne la liste des trois possibles. Il y a Moukié, alors lui, oulala.
Il a joué aussi des fois.
Non, mais Skriniar, lui, il avait joué les six matchs titulaires des phases de groupe de Ligue des Champions, mais il a disparu. Il n'a pas joué de minute lors de ses phases d'élimination directe. Alors, les deux, allez, candidats, Beraldo, peut-être un temps d'avance sur Danilo. On vous a mis le nombre de matchs, le nombre de titus. Voilà, Danilo qui a été moyen sur les matchs qu'il a joué cette saison en Ligue des Champions. Et Beraldo, sa note moyenne a baissé du fait de son très mauvais match face au FC Barcelone.
Alors, on va recontextualiser un petit peu les derniers épisodes de Lucas Beraldo pour Raymond. C'est vrai qu'il souffle le chaud et le froid. Et quand le niveau monte, eh bien, on a tendance à voir le PSG presque s'enrhumer. Même si sa prestation avait été saluée après la qualif face à la Real Sociedad, il évoluait aux côtés d'Hernandez en
en défense centrale. Jolie note de 7 dans notre journal pour le récompenser. Il s'était montré vigilant. Le Brésilien était parvenu à couper les quelques occasions basques. Et dans la foulée, son coach Luis Enrique saluait sa polyvalence, mais aussi sa personnalité et son adaptation express au PSG.
On dirait que Beraldo sort du centre de formation, qu'il est parisien. C'est fou la façon dont il s'est adapté, c'est formidable. Il a beaucoup de personnalité, beaucoup de qualité. Il s'adapte bien à notre idée de jeu. C'est généralement l'exception qui confirme la règle.
Alors, on n'était pas loin de s'emballer après ces 3 mois au PSG dans la capitale. Et puis voilà qu'arrive le Classico Marseille. Et il imite son aîné Neymar. Il est expulsé après sa mauvaise intervention sur Aubameyang. 10 jours après, il est totalement dépassé par un certain Lewandowski. Dans ce quart de finale, elle est perdue face au Barça. Et comme Donnarumma, il récolte le plus de critiques après cette prestation parisienne. Son printemps parisien n'est pas des plus resplendissants, c'est vrai. Mais son coach Enrique, lui, il est toujours là pour défendre son protégé, comme il y a tout juste une semaine.
C'est une très bonne entrée, un joueur si jeune qui arrive du Brésil. Mais sa capacité d'adaptation et ses performances ont été spectaculaires. Beraldo a été une très bonne recrue, grâce à la direction sportive de Luis Campos et un joueur du futur du PSG, au moins tant que j'y serai.
Un discours en tout cas pour rassurer le jeune Brésilien. On rappelle, il a seulement 20 ans. Il apprend vite pour celui qui a aussi eu le bonheur de connaître cette année, au mois de mars, pour la première fois la sélection brésilienne. Qui sait ce qui peut se passer mardi prochain ?
Non mais je vais rajouter Nuno Mendes. On l'a mis dans l'intitulé parce qu'il y a la blessure de Lucas Hernandez. Mais Nuno Mendes, le match qu'il fait à Dortmund, Karim, c'est épouvantable.
C'est surtout le match que fait Sancho face à lui, pour le coup. Parce que non mais moi je préfère valoriser l'importance de l'attaquant plutôt que la méforme du défenseur. Mais là on parle du défenseur, donc oui, je suis d'accord.
Il a eu deux et je pense que personne ne sait prendre cette note ici.
Non, mais il a été effectivement dépassé à tous les niveaux face à Sancho. C'est très inquiétant, effectivement, dans l'optique du match retour. Mais à domicile, le Paris Saint-Germain va forcément attaquer pour aller chercher la qualification. Et je vois mal Nuno Mendes être pris à revers, puisque le PSG va beaucoup dominer.
Et surtout, il ne peut plus mettre Lucas Hernandez à gauche.
Oui, effectivement.
S'il avait eu envie.
Moi, honnêtement, sur cette défense-là, bien sûr, je suis inquiet parce que je l'étais. C'est la même chose que Vincent. Avant le match contre Dortmund, le match aller, puisque la défense n'apporte aucune garantie depuis le début de la saison. Il y a un déséquilibre qui s'est organisé depuis la prise de pouvoir de Luis Enrique. Et c'est encore plus flagrant ces dernières semaines. Alors évidemment, il y a des équipes bis, mixtes, contre Le Havre, contre Clermont, mais le PSG a encaissé des buts malgré tout avec certains joueurs qui seront titulaires contre Dortmund.
Ça ne changera plus maintenant.
Non, ça ne changera plus. Voilà pourquoi c'est dangereux, parce que je pense que Dortmund a les armes pour aller marquer à minima un but au Parc. Et quand vous avez 2 buts à marquer, ou un pour faire au moins en prolongation, ça peut paraître inquiétant d'avoir une défense pareille.
Alors, ok, bravo à Sancho. Vous avez raison, mais en même temps, il avait le droit de faire mieux quand même. Non, mais là, il n'était peut-être pas aidé par ses attaquants.
C'est une demi-finale de Ligue des Champions, c'est quand même pas de bol de tomber sur un bon joueur. Ah, je veux dire, il y a un moment quand même. Les défenseurs, ils doivent quand même pas leur boulot. Et franchement, Hakimi, il n'a pas fait mieux l'autre côté. Hakimi, il s'en est mieux sorti.
Il n'était pas bien aidé par Barcola aussi.
Il s'en est mieux sorti.
Par le Mbappé, des fois.
Non, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est parce que Barcola, il allait presser à la place des autres attaquants, dans des zones effectivement qui n'étaient jamais compensées par le milieu, notamment par Ruiz. Je pense que Barcola, il n'est pas seul responsable d'avoir laissé. Le problème aussi, c'est de vouloir jouer absolument aussi haut avec la possession, avec une équipe de Draxler et puis de défenseurs aussi lents. Vous laissez bien trop d'espace sur le but. Il suffit d'un ballon en profondeur tranquille axial et hop, ça fait but. C'est pas possible.
Oui, mais
jouer plus bas,
protéger
un peu mieux la défense qu'il ne le fait. Je pense que, enfin bon, c'est pas la première fois, mais je pense qu'ils jouent un foot, ils n'ont pas les moyens de jouer ce jeu-là, mais c'est tout après. Ça veut dire pas que j'ai raison. Hein.
Ça veut dire qu'il y aura des changements, Raymond. Par la force des choses, les blessures.
Des changements ?
Bah oui,
il aura pas. Bah oui, il est obligé de changer au moins un défenseur central.
Ouais. Mais donc vous mettez Beraldo en gamin, vous mettez Danilo, vous mettez Skriniar, vous mettez Mukiele, non, et si vous remettez Mendes, vous mettez Ugarte pour défendre plus au milieu de terrain peut-être ?
Je suis pas entraîneur, je veux pas faire l'équipe à sa place. Mais non, je veux dire, lui il les voit toute la semaine et il a une idée. Son idée, c'est il veut faire jouer Beraldo. Beraldo, bah, je veux dire, il va en subir les conséquences.
Ça ne vous choque pas que ce soit son dada, là.
C'est une manière de poser la question autrement.
On dirait qu'il est en conférence de presse, ça y est.
Non, parce que lui, ses équipes, elles ont bougé, elles ont changé. Il avait trouvé un équilibre avec sa charnière centrale. Maintenant, il est obligé de s'adapter à nouveau. Le choix, il va le faire avec lui pense que c'est Beraldo le meilleur.
Pour jouer, pour relancer, c'est le meilleur.
Moi non.
Oui, c'est ça. C'est qu'il a une bonne relance.
Ben oui, voilà.
C'est ça dépend qu'il a une très bonne relance aussi. Et vous ne l'avez jamais vu. C'est Antoine Pinot.
Ah bon, ah bon,
il est très bon. Ah. Voici le replay. Si, si, c'est vrai. Hein.
Très bonne descente aussi, apparemment.
Oui. Elle est meilleure en descente.
Elle est meilleure en descente. Hein.
Oh, j'étais un bon petit numéro 10, quoi. Voilà, qui laissait courir les autres. C'est parfait. Voilà. J'organisais le jeu. Ouais. Tu vas bien?
Bah oui.
Allez, on va revenir sur la semaine européenne. C'était le truc super important. Jingle. Et alors, qui dit match européen dit correspondant. Et vous allez voir, il y a deux écoles. D'abord, l'école Candice Roland. Ouais, à l'aise, pas peur, Candice. Et puis à Dortmund, il y a l'école Castaldi, c'est autre chose.
Il y a du soleil, il y a un peu de vent, et pour l'instant, tout se passe bien dans l'avant-match, tout est bien.
Ma chère maman, des nouvelles du front ici en Allemagne. J'ai été prise à partie par une section française ultra. J'espère rapidement rejoindre la zone libre en Suisse. J'espère aussi que Dodu, mon chien, va bien, il me manque. Vivement mes week-ends de running. Ah oui, je vous ai pas dit, je cours, j'aime le sport. Giovanni, ton fils, demi-frère de Benjamin. Voilà. On revient à Candice. Lors du duplex, Greg, vous avez trouvé qu'un supporter ressemblait à un de nos journalistes?
Ouais.
Très drôle.
J'ai l'impression que vous avez le sosie d'Adrien Kourou, le demi-marron à côté de vous. Hein, voilà le sosie d'Adrien Kourou. Rien à voir. C'est Roger Kourou.
Ils ont le même doute. Ouais. Ouais, c'est pas fou. Je vais vous montrer un sosie. J'en ai trouvé un. Celui de Raymond. Voilà, là d'accord. Allez, on reste. Vincent Duluc, Greg. Eh non, ah là là. Toujours pas. Hein. Candice, toujours avec un supporter de Marseille, fan de Bertrand Latour.
Alors moi je suis fan de l'OM, en principe, et en plateau, la tour. Toujours critiqué, jamais égalé la tour. C'est le patron la tour.
Merci,
la tour c'est le patron. La tour, merci. Je t'embrasse, mon chat.
Merci. Tu peux lui mettre.
Allez l'OM, allez la ST, ouais. Allez Maloutre, ouais. Allez Pilduit, allez Saint-Brieuc, allez Saint-Gilles. Et bisous à ma femme et à Lola.
Ouais, ouais, d'accord. Bisous. Ah, quand même, Candice, ouais. Tu pourras mettre un petit.
Bah, super. Alors pour résumer, voici l'ensemble des remerciements de ce supporter. Hein. Voilà, super. En tout cas, du côté de Paris, on a trouvé un trio d'attaque plus fort que celui du terrain. Les supporters, regardez. Il est magnifique celui-ci. Et son petit frère. Et on le voit aussi. Très sympa aussi. Super. Ouais. Super. On les embrasse. Grande soirée, hein, Yoann Ryu.
Je puais des pieds, tout allait bien.
Tout est vrai. Hein.
Là, oui, là, il n'y a aucun truc.
C'est réalisé sans trucage. Hein. Ça n'a pas de sens. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il s'est senti les pieds pendant la grande soirée. Vraiment. Ah, il oui. A fait je pue des pieds, je pue des pieds.
Comment vraiment. Il a pu
ressentir. Oh,
mais il est sûr, il a senti ça.
Ah, ouais, vas-y, on finit la Ligue 2 derrière.
On touche un pied.
Et vous nous ralentissez.
Allez, ben, Asher School, c'est parti.
Ah, très bien.
Jingle.
J'aime beaucoup celui-là.
Ouais, ouais, je sais. Et dans la classe, il y a le costaud Jérôme Alonso. Alors, quand il fait une blague sur l'ancien joueur Lame, le camarade moins baraque en fait des caisses.
Hein. Bah, vous ne la pétez pas parce que vous êtes allé voir Philippe Lame. Là. Comment vous nous avez balancé ça, là? Je suis allé voir Philippe Lame la semaine dernière. Excusez-nous. Vous avez interviewé Chessel comme Bernardo Silva ou pas?
Ralenti. Vas-y, rigole, Raph. Ah, c'est très drôle, Jérôme. Oh la vache, il se retourne. Oh, j'ai fait pipi. Nabil Djellit, lui, carrément de la mafia.
Alors hier, vous étiez le plus pessimiste, vous avez eu raison. Et là, vous êtes optimiste.
Ouais, on l'a menacé avant de rentrer dans l'émission avec Dave, on l'a attrapé dans un coin, on lui a dit intérêt.
Mais ça ne va pas.
On s'occupe de toi, on s'occupe de toi et je vois que ça marche. On t'écoute, Olivier.
Donc ça a marché.
Je répète bien ce qu'on t'a dit. Vas-y.
On a commencé.
Nabil Djellit de la mafia. Ah ouais, il est beau, hein. Olivier Rouillet, tu trouves ça quoi?
Bordant.
Oula. Nabil qui a parlé du PSG de Fabien Ruiz, il adore, hein.
Je demande à un milieu de terrain de plus couvrir, j'en sais rien. Enfin, le mec qui est à gauche, Ruiz, là, de toute façon, il sert à rien devant. Ouais. Il frappe tout. Non, mais Ruiz, c'est pas possible. Il est neutre, il fait des relances dans l'axe et tout. C'est incroyable, quoi. Enfin, alors bon, bref, je vais pas lui tomber dessus, mais.
Moi, j'avais parié. Moi, hier, j'ai dit.
Ça se chamaille aussi entre Émilie Ross et Sébastien Tarago. Émilie, elle se laisse pas faire. Hein.
Alors
charisme, c'est très compliqué.
Vous voyez le charisme, on va aller voir Émilie Ross. Alors,
ah,
Émilie,
vous êtes sûr?
Bien sûr. Non,
j'adore cette émission,
ça,
moi.
Ça fait plaisir. Alors,
ne touche
vous...
pas.
Je veux présenter Loïc Tanzi.
Présente.
Alors, vous dites
j'adore Loïc.
Parce qu'il est d'accord
d'accord avec toi.
Oui, alors Loïc Tanzi, il est en vacances et Camille Macali, tu vois, tu me vois venir, tu sais où il est et il s'éclate.
Ça se passe très bien, je suis enchantée.
Madame, franchement. Puis un élève turbulent, Bertrand Latour. Il fait des progrès.
Elsmer. Allez, inquiète-toi maintenant. Allez,
c'est parti des nommés. Ouais. C'est un truc de fou cette image.
Ça
m'endort,
François.
Il y a un pastille. Il y a un pastille.
Bonne année
1982. Regardez. Allez, lance Léon Zitrone, c'est parti. On débute en prenant des infos des amours de Yoann Ryu.
Quand tu vas dire.
Ah, yo-yo.
Souviens-toi, on joue tous les deux.
Ce sera mon mariage, tu sais bien.
Oui, bah calme-toi. Ouais,
2027.
Ah, 27. C'est bon, le teasing.
Ou 2029, ah ouais.
Il vient de teaser Avatar 6, là.
Comment? Ouais, mariage en 2027 et Yoann, il veut 5 enfants. Donc en 2035, sa copine lui dira...
Alors, on ne touche
vous...
pas.
Ouais, il y a pour engager son copain Raph Sebaoun pour l'ambiance. Alors, il n'y a qu'un souci, Raph, t'assumes moyen tes vannes.
Dembélé pour Benoît et Dembappé, c'est excellent, Raphaël.
Oh, bravo.
Là, c'est un gros niveau, Dembappé. Vous voyez, là, on est. On va vous faire engager par Antoine Pilon tout à l'heure pour le replay. Vous Dembappé. Cherchez un auteur. Dembappé. Il y sera. Laurie, je viens vous voir.
Ouais, pas sûr. Autre idole, Nabil Djellit, qui a reçu un bel hommage d'un supporter marseillais.
J'ai un mot à placer, Nabil Djellit, tu es le sang, frérot. Tu me régales. Tu n'es pas comme Domenech et Mikou. Mais. Parce qu'il faut qu'ils musclent leur jeu. Mais Nabil Djellit, je t'aime. Ti amo. Et je t'aime.
Bravo Nabil.
Presque d'accord avec toi.
On a évoqué la qualité.
On en a parlé, elle est de retour. La sorcière Emilie Ross.
C'est le meilleur de Munich. Hein. De l'hostal.
Attends, j'ai peur parce que.
Coupable d'avoir tué, puis découpé en morceaux, à la meuleuse à béton.
Oh la vache. Et on termine avec l'actrice Alicia Dobby dans son rôle préféré. Répétez la réponse.
Ah ouais. Du plus ancien au plus récent, et pour un point, Balerdi.
Ça va être un argent.
Ça m'énerve.
Vous allez vous en vouloir. 3.
Non.
2.
Attends.
1. Terminé. Alexis Sanchez.
Ça me fait ça. Je l'avais au bout de la langue.
Elle dit le son, j'ai une fois que j'ai fait ça. C'est spécial Domi.
On l'adore.
Elle est fantastique. Merci Antoine Pignon. Reste là. Dans un instant de la Ligue 2, mais Saoud. Angers-Pau, hein.
Match capital pour la montée, ça suffit.
Ça va être absolument génial. Ce soir, Benoît Pedretti, président de l'équipe du soir. Passez un bon week-end sur la chaîne équipe à lundi
18h30. Merci à tous.
Ils sont là, les gars, sûrs.